RFI, grand reportage.
Franchement, nous nous sentons en dépression. Nous avons fui ici, quittant nos foyers, nos biens et nos bétails. Et nous nous retrouvons ici, dans ce camp. Et nous avons vraiment peur de retourner chez nous, de peur qu'ils reviennent nous tuer.
Il fuit les attaques djihadistes dans le pays voisin, le Burkina Faso. Environ 15 000 personnes se sont installées depuis 2 ans dans le nord du Ghana. Un peu plus de 3 000 personnes ont obtenu une attestation reconnaissant leur statut de déplacé. Et parmi elles, plus d'un millier sont installées dans le camp de Zébila, au nord-est du pays. Dans le nord-est du Ghana, les nouveaux réfugiés du Burkina, c'est un grand reportage de Caroline Chauvet.
Dans un paysage aride, frappé par le vent de l'Harmattan, s'étendent des rangées de tentes tamponnées du logo HCR. Nous sommes dans le nord-est du Ghana, près de la ville de Zébila. C'est ici que depuis juin 2023, un camp de réfugiés accueille plus de 1000 personnes venues du Burkina Faso. Ici, femmes, hommes et enfants ont tous fui leur pays. Entre deux tentes, un groupe de femmes garde quelques enfants en bas âge. Elles discutent ensemble. L'une d'elles, sous couvert d'anonymat, accepte de nous raconter son histoire en langue bissa.
Nous étions dans le village et il y a des individus armés non identifiés qui sont rentrés la nuit dans le village. Et ils cherchaient des hommes pour les tuer. Et c'est suite à cela qu'ils ont tué 2 voisins. Et nous avons fui pour nous retrouver là. Et ce que je voulais ajouter, ils sont venus 2 fois dans le village. Ils ont tué des garçons, des jeunes qu'ils ont tués.
Cette dame, son mari et ses 7 enfants ont perdu leur terre et leur bétail près de la ville de Bitou, au Burkina. Ils arrivent au milieu de l'année 2023 dans la communauté de Gentiga, dans le nord-est du Ghana. Quand vous êtes arrivé au Ghana, comment vous vous êtes senti parmi les Ghanéens ?
Vraiment, quand nous sommes arrivés au Ghana, les gens nous ont bien accueillis. On nous a hébergés et on nous a donné à manger. Et suite à cela, comme le nombre de déplacés a augmenté, les gens qui nous ont reçus ne pouvaient pas contenir tout ce monde. Ils ont communiqué avec le gouvernement et c'est suite à cela qu'on a créé un camp pour nous.
Après plusieurs mois dans les familles d'accueil, les autorités et le HCR ont proposé à cette dame et à sa famille de s'installer dans ce nouveau camp de réfugiés de Zébila.
Comment vous vous sentez maintenant dans ce camp, loin de chez vous ?
Franchement, ça va, nous nous sentons à l'aise. Nous arrivons à manger à notre faim, mais c'est juste la solitude et le manque d'activité. Et nos jeunes sont restés pour travailler sur les sites d'orpaillage. Nous remercions également ces gens qui nous ont accueillis là. Mais nos jeunes enfants sont allés chercher de quoi nous envoyer de l'argent. Mais malheureusement, il n'y a pas de travail là-bas. D'autres sont restés, d'autres sont revenus. Et maintenant, nous demandons aux bénévoles de nous aider pour avoir quelque chose. Et pourquoi pas un jour retourner chez nous.
Quelques mètres plus loin, nous rencontrons une deuxième femme. Elle a fui la zone de Soulouby, dans l'extrême sud du Burkina Faso, avec 6 enfants et 2 petits-enfants. Dans ce camp, les réfugiés sont soit Mossi, soit Bissa. Cette femme nous parle en moré, la langue des Mossi.
Des attaquants ont tué 20 de personnes, des membres de ma famille et des voisins qui étaient comme ma famille. Et quand ils nous ont attaqués, on n'a pas pu retourner au village Soulouby pour ramasser nos affaires. Et quand on a fui à pied pour quitter le village, j'étais enceinte. 3 jours après, j'ai accouché et 5 jours après, ma fille a accouché. Et on a continué à fuir jusqu'à arriver à Ouidana et on vivait chez le chef. Et c'est le chef qui nous a ensuite envoyés dans le camp là pour qu'on s'occupe de nous.
Pourquoi pensez-vous que vous avez été attaquée ?
Nous étions dans le village et je ne sais pas pourquoi on a été attaqué. Ce serait mentir de dire que l'on sait pourquoi.
Comment vous vous sentez maintenant ?
Quand je pense à ce qui m'est arrivé, je suis vraiment triste. C'est une désolation.
Cette femme apprécie l'accueil des villageois ici. Et même si ces derniers parlent plutôt le koussal, ils arrivent de mieux en mieux à se comprendre. À l'arrière du camp, un vieillard est assis avec deux jeunes hommes. Ils sont ses beaux-fils et ne vivent pas dans le camp. Les trois hommes écoutent une chaîne de radio d'Accra et discutent de leur situation. Le vieux monsieur, qui dit avoir 72 ans, s'ouvre à nous. Il vient lui aussi de Bitou, la même zone que la première réfugiée.
Ce jour-là, nous étions à la maison dans nos cases et nous avons appris que le village était en feu et nous avons fui. Des personnes ont été blessées et les attaquants ont tué d'autres personnes.
Vous savez qui vous a attaqué ?
Nous ne savons pas qui nous a attaqués. Ils sont venus dans le village parce qu'il y avait une compétition de football. Et après cela, ils se sont mélangés, ils sont entrés dans le village. Sinon, nous ne savons pas qui étaient ces personnes-là.
Vous qui avez vécu cette attaque, comment vous vous sentez maintenant ?
Franchement, nous nous sentons en dépression. Nous avons fui ici, quittant nos foyers, nos biens et nos bétails. Et nous nous retrouvons ici dans ce camp. Et nous avons vraiment peur de retourner chez nous, de peur qu'ils reviennent nous tuer.
Ici, dans le camp, comment vous sentez-vous ? Et qu'est-ce que vous faites de vos journées ?
Pour être honnête, au camp ici, nous nous sentons en sécurité et bien. Mais nous sommes dans le stress et la dépression, nous ne faisons rien ici. Nous sommes assis, on nous donne à manger, à boire, nous sommes là, on ne fait rien. Nous avions chacun des métiers respectifs que nous exercions dans nos villages. Mais depuis que nous sommes ici, on nous loge, on nous donne à manger, mais jusque-là, on ne fait rien. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est s'organiser et que chacun reprenne son travail dans le camp pour aboutir à quelque chose, en espérant un jour retourner dans nos villages respectifs avec la paix.
Dans ce camp, peu d'hommes jeunes, souvent des femmes, des vieillards et des enfants. Plus loin, une trentaine d'enfants jouent. Deux équipes face à face doivent attraper une bouteille d'eau au milieu du terrain de jeu. Parmi eux, un jeune adolescent du village voisin est venu passer du bon temps avec ses amis du camp.
Je suis content, je suis venu pour rencontrer des amis et jouer, et comme ça, on peut mieux tous se connaître.
Ici, les enfants réfugiés et ceux du village apprennent dans la même école, à Tarikom. Ce village de 2600 habitants est situé à moins d'un kilomètre du camp. Nous nous rendons à Tarikom. Sous l'arbre à palabres, plusieurs villageois se sont réunis. Ces habitants ont accepté, il y a plusieurs mois, de donner environ 16 hectares aux réfugiés. C'est ce que vous nous expliquez Ambawila Awale. À 75 ans, il est le land priest, c'est-à-dire le responsable traditionnel des terres de sa communauté.
En tant que land priest et propriétaire des terres de cette communauté, j'ai eu pitié de ces gens quand j'ai appris qu'ils avaient besoin de ces terres pour leur permettre de s'installer.
Et ces terres, elles ne vous manquent pas ?
Oui, nous n'avons plus accès à ces terres. C'était les terres dont nous dépendions.
Parmi les personnes qui ont joué un grand rôle dans l'intégration des réfugiés, il y a Isaac Ongonwin. Il est le District Assembly Representative de Tarikom, une sorte de leader communautaire élu. Bonjour, monsieur Ongonwin. Comment s'est passée la première rencontre ici avec les réfugiés ?
C'est précisément en juin 2023 que nous les avons reçus. Tout le monde était curieux de rencontrer des gens qu'ils n'avaient jamais vus de leur vie. Donc les villageois étaient contents. Mais après quelques jours, ces derniers ont commencé à écouter des informations comme quoi les personnes qui avaient attaqué ces réfugiés les suivraient par tous les moyens jusque dans la communauté dans laquelle ils vivent. Et les habitants de Tarikom ont alors commencé à avoir certaines pensées et perceptions négatives. Et pour beaucoup, à chaque fois qu'ils voient des étrangers poser des questions ou même leur demander leur chemin, pour des raisons de sécurité, ils ne veulent pas leur parler. Mais les services de sécurité du Ghana, le chef de la sécurité et même la sécurité de la présidence sont venus ici et les gens ont été rassurés. Ils ont compris que leurs craintes ne se produiraient pas. On est encore en train d'expliquer les choses, de parler aux habitants de Tarikom. Mais je pense que tout va bien maintenant.
Ces personnes sont venues de régions en conflit. Elles peuvent être blessées psychologiquement. Comment est-ce que vous, en tant que leader communautaire, vous faites pour les intégrer et pour bien les comprendre ?
Ouais, c'est vrai. Certains d'entre eux ont peur de vous dire ce qui s'est réellement passé. Mais d'autres, lorsque vous les approcherez, vous racontent ce qu'il s'est réellement passé. Il y avait une femme qui m'a dit que les attaquants étaient venus, qu'ils avaient tué le mari et les enfants, devant ses yeux. Donc, certains d'entre eux, quand vous les voyez, vous avez envie de leur donner 10 cédis, 20 cédis, 50 cédis, juste pour leur faire ressentir l'accueil du Ghana.
Comment se passe l'intégration des réfugiés au quotidien?
Ici, les enfants vont à l'école tous ensemble, et les demandeurs d'asile et les villageois. La clinique que nous avons ici est à la fois pour les réfugiés et la communauté. Nous faisons tout en commun. Leur venue a également été bénéfique pour la communauté, dans la mesure où, je ne sais pas si c'est à cause de leur présence, mais nous n'aurions même pas eu l'électricité, et on a aussi mécanisé notre clinique. En tant que communauté, nous disons que si on veut une bonne intégration, on doit penser aux villageois qui se demandent « Mais pourquoi nous, nous sommes les pauvres dans tout cela ?» Ces réfugiés viennent d'arriver. Ils ont reçu de l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais pas le village. Et quand ils sont arrivés, nous leur avons donné nos terres. Donc pour ceux qui viennent d'ici, notre demande en tant que communauté, c'est l'extension du réseau électrique dans le village, et puis la clinique.
Pour Isaac Ngonwin, il est donc important que les organisations internationales n'oublient pas les villageois. Nous nous déplaçons à quelques kilomètres de Tarikom pour aller dans la ville de Zébila. C'est dans la radio locale Zebs FM que nous retrouvons Jarvis Avoka, manager de cette radio et journaliste. Bonjour Jarvis, vous pouvez nous expliquer sur quoi porte cette émission?
Donc dans ce programme, nous entendons la voix de M. James Ayaraga, le directeur adjoint du ministère de l'Éducation. Il parle dans cet épisode des enfants réfugiés. Il se concentre ici sur la manière dont les enseignants, les enfants et les parents peuvent aider ces enfants à s'adapter à notre système ici au Ghana.
Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain?
Au cours des deux dernières années, nous avons eu de nombreux cas de personnes fuyant le Burkina Faso. Par exemple, le 23 décembre 2022, j'étais dans un village appelé Widnaba, dans le district de Bafou Ouest. Des femmes et des enfants avaient traversé la frontière à pied dans une ville, c'est plutôt un village, appelé Zariboku, et ont été forcés de fuir vers le Ghana pour des raisons de sécurité. Ils ont été accueillis par les Ghanéens, mais leur nombre était si grand que nous avons dû immédiatement informer les autorités pour assurer leur sécurité. Les autorités les ont sécurisés, ils les ont contrôlés, ils ont écrit leur nom, ils ont tout enregistré. Après un certain temps, la plupart d'entre eux ont dit qu'ils voulaient rentrer et ils ont été autorisés à rentrer. Mais ceux qui ne se sentaient pas en sécurité, on leur a donné un endroit où dormir à Widnaba. Après, ceux-là aussi sont repartis chez eux.
Est-ce que vous avez aussi été témoin de réfugiés qui avaient quelques difficultés en arrivant au Ghana avec la population?
À Garou, dans le district de Garou, dans la région du Nord-Est, début 2023, j'ai fait état de la montée des tensions entre les Burkinabés réfugiés et la population locale. La population locale n'était pas contente car elle estimait que les Burkinabés permettaient volontairement à leurs animaux de se nourrir de leurs récoltes. Mais il s'est avéré que non. Ces gens, parce qu'ils étaient étrangers, ils ne connaissaient rien de la région. C'est plus tard que les chefs et les autres leaders ont pu résoudre ce problème. Certains des réfugiés qui possèdent des animaux les ont confiés aux familles d'accueil pour qu'elles les aident à en prendre soin.
Nous nous rendons à Accra, dans les bureaux du Ghana Refugee Board, l'institution ghanéenne pour les réfugiés. Son directeur, M. Tété Paddy, nous reçoit. Bonjour M. Paddy, pourquoi avoir construit un camp de réfugiés à Zébila?
Tout d'abord, il y a une raison sécuritaire à cela. Il est important de savoir qui est ici et où les personnes se trouvent exactement. Même si le Ghana permet aux réfugiés et aux demandeurs d'asile de vivre au sein des communautés ou familles d'accueil, Dans ce cas particulier, il était important que nous fassions un camp, parce que cela est proche de nos frontières.
Et comment vous enregistrez les réfugiés ?
Les demandeurs d'asile viennent au centre d'accueil du camp. Ils sont enregistrés, soumis à un contrôle de sécurité, à un contrôle de santé et à d'autres aspects de contrôle. Puis ils sont transférés dans le camp.
Et si une personne souhaite partir du camp ? Comment faites-vous ?
Nous exigeons que toute personne qui souhaite quitter le camp s'inscrive auprès de nous ou en informe la direction du camp. Ils doivent nous dire où ils vont et pourquoi ils y vont.
La plupart des réfugiés rencontrés se plaignent de n'avoir aucune activité sur le camp. Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux ?
C'est dans le projet de leur donner des terres agricoles que nous avons déjà acquises. Notre partenaire en charge des moyens de subsistance a acquis des ruminants et de la volaille pour des réfugiés qui souhaiteraient avoir des animaux. Dans les camps que nous avons créés par le passé, nous avions mis en place toutes sortes d'activités, de la couture à la fabrication de savon, en passant par la coiffure, la mécanique automobile, les technologies. Il y a beaucoup de modules.
Depuis notre interview en février, Tété Padi affirme que certains réfugiés ont déjà reçu des animaux pour l'élevage ou encore quelques aides pour faire du commerce. Et ces villageois qui ont donné leurs terres aux réfugiés, ils ont peur d'être laissés pour compte et réclament par exemple plus d'électricité.
Oui, c'est essentiel que nous répondions également aux besoins en infrastructure de la communauté, parce que les réfugiés partagent les services avec la communauté d'accueil.
Depuis 2022, le Ghana Refugee Board estime qu'environ 15 000 personnes seraient arrivées dans le nord du pays. Un peu plus de 1 000 réfugiés ont été placés dans le camp de Zébila. D'autres sont restés dans des familles d'accueil. Un autre camp vient d'être construit à Zini, dans le nord-ouest du pays. En juillet 2023, le Ghana avait été accusé par l'ONU de renvoyer des réfugiés vers le Burkina Faso. Mais selon Accra, il s'agissait de rapatriements volontaires et d'une opération de sécurité et de contrôle de personnes, rappelle M. Padi.
Ce sont les services de sécurité qui connaissent les personnes qui ont eu une assistance au retour. Nous, au bureau ghanéen des réfugiés, nous enregistrons les personnes autorisées par les forces de sécurité.
Une communauté se sent pourtant rejetée par le Ghana. C'est la communauté Peul. Au moment du reportage, début février 2024, aucun Peul n'était présent dans le camp. À Accra, nous rencontrons Yakubu Moussa Bari, le secrétaire général de l'association des Peuls au Ghana. Il souhaite faire un plaidoyer sur sa communauté. Et il l'affirme, les personnes renvoyées en juillet 2023 étaient bien des Peuls.
Seuls des Peuls étaient rapatriés au Burkina Faso. Le service de sécurité nationale a mené cette opération en collaboration avec l'immigration et l'armée. De nombreuses organisations internationales se sont prononcées et ont condamné leurs actes. C'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était une erreur. On a été invités à discuter avec les forces de sécurité. Nous nous sommes assis et nous avons délibéré. Ils ont accepté leur faute et c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté l'opération.
Vous dites régulièrement que les Peuls sont stigmatisés. Comment cela se manifeste ?
Nous sommes marginalisés à tel point que cela se manifeste dans la perception des gens. Lorsqu'un Peul a commis un crime, toute la communauté Peul sera attaquée. Mais un simple villageois, un autochtone, commet un crime, alors on dira que c'est un individu. Mais si un Peul commet un crime, alors toute la communauté Peul sera attaquée.
La question des Peuls reste délicate dans de nombreux pays. Ce peuple d'origine nomade est souvent associé dans l'imaginaire collectif aux divers mouvements djihadistes du Sahel. Mais il en est aussi l'une des principales victimes. Pour l'ensemble des réfugiés des zones en conflit, le Ghana reste un havre de paix. Il n'a pas connu d'attaque terroriste sur son sol, contrairement à ses voisins, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire.
Dans le nord-est du Ghana, les nouveaux réfugiés du Burkina. Un grand reportage de Caroline Chauvet, réalisation Eva Piedel.